Nous sommes en fin janvier, toujours confrontés aux anniversaires douloureux de la libération des camps d'extermination, dont celui d'Auschwitz. Reste-t-il alors des choses à découvrir sur la Seconde Guerre mondiale? C'est ce que l'on pourrait imaginer, effectivement, avec une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale que publie chez Perrin Olivier Viviorca.
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
And today in Belgium itself, the church takes a firm stand against the Nazis. Yes, and the Nazis themselves have something to say about that.
Was vor ihnen war und nach uns sein muss an Deutschland.
Chaque jour, notre voix toute proche vous dit « Courage, on les aura, les Boches !» Ici Radio Belgique.
Ici Radio Belgique.
Chers compatriotes, hier, on annonçait l'entrée des armées alliées en Belgique et voici qu'aujourd'hui, tout à coup, on annonce la libération de Bruxelles. La capitale est délivrée, la capitale est libre.
Ici Léopoldville, radiodiffusion nationale belge. La Belgique en guerre vous parle. La Belgique en guerre vous parle. Comme elle vous parle tous les soirs par l'émetteur de la radiodiffusion nationale belge à Léopoldville, capitale du Congo.
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Bonsoir Olivier Viviorca.
Bonsoir.
Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que jusqu'ici, on ne s'était attaché qu'à quelques fragments militaires, par exemple?
Oui et non. Effectivement, vous avez raison de le rappeler, les histoires globales de la Seconde Guerre mondiale sont assez rares. Vous avez beaucoup d'histoires qui sont des histoires parcellaires, des histoires qui portent sur un pan, mais les synthèses, au fond, sont plutôt en nombre limité. Et donc, la volonté que j'ai eue, c'était d'offrir au lecteur une vision globale, une vision totale de la Seconde Guerre mondiale, ce qui ne veut pas dire que je pense que mon livre soit définitif, bien évidemment pas. Vous aurez, après cet ouvrage, d'autres livres qui apporteront un autre regard, qui apporteront d'autres connaissances sur cette Seconde Guerre mondiale.
Oui, mais l'histoire militaire et l'histoire idéologique ont primé. On parle de la bataille de Stalingrad, important tournant évidemment dans l'influence de la guerre. On parle d'El Alamein, on parle bien sûr du débarquement de Normandie ou de Sicile, mais on ne voit pas l'ensemble des éléments qui préparent, qui amènent et qui surgissent pendant. Par exemple, l'histoire économique de la Seconde Guerre mondiale n'est pas le sujet traité pour le plus grand public.
Non. Et de fait, ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, c'est d'insérer le fait militaire dans une globalité ou dans une totalité. Je crois effectivement qu'on ne peut pas comprendre la bataille de Stalingrad ou la bataille de Koursk si on ne prend pas en compte l'outil militaire que l'industrie soviétique a été capable de forger, un outil militaire qui, il faut le souligner, a été beaucoup plus puissant que l'outil militaire forgé pour la Wehrmacht. En d'autres termes, l'économie soviétique s'est révélée beaucoup plus performante que l'économie allemande.
Il y a évidemment, dans l'ensemble des faits et dans l'ensemble des paramètres qui sont ainsi développés, il y a ainsi aussi beaucoup de nouvelles découvertes à faire. Le fait idéologique, le fait fasciste ou le fait nazi et son adhésion, y compris aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, par des sphères qualifiées d'élite, tout cela n'apparaît pas forcément dans les manuels généraux.
Non, vous avez entièrement raison de le souligner. Vous avez deux choses. Vous avez d'abord des affinités idéologiques que l'on a très souvent masqués ou occultés. Toute une part de l'establishment britannique, par exemple, regarde avec les yeux de chimène le nazisme.
Le roi Édouard VIII en tête.
Oui, mais l'élément qu'il convient surtout de souligner, c'est au fond la méconnaissance que les dirigeants occidentaux ont du nazisme. Ils ne perçoivent pas la nouveauté du nazisme, ils ne perçoivent pas son caractère éminemment idéologique. Au fond, ils considèrent Adolf Hitler comme un nouveau Bismarck. De même qu'ils ont peut-être tendance à minorer le caractère idéologique de l'Union soviétique en faisant de Staline, au fond, un avatar du tsarisme. Et donc cette difficulté à comprendre la nouveauté idéologique que portent des individus comme Adolf Hitler ou Joseph Staline, c'est bien évidemment l'une des impasses du monde occidental avant la Seconde Guerre mondiale.
Alors Olivier Vivurquin, beaucoup de vos collègues commencent à énoncer l'idée qu'il y aurait en fait une seule grande guerre qui commence en 1914 et se termine en 1945 avec une pause. Seriez-vous, dans une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, preneur de cette façon de voir les choses ?
Très sincèrement, je n'achète pas. Je n'achète pas pour tout un ensemble de raisons. Je souligne d'abord que cette idée de guerre de 30 ans, elle a été vendue par le général de Gaulle. Le général de Gaulle, qui paradoxalement, dans son appel du 18 juin, évoque une guerre mondiale, parle ensuite beaucoup plus volontiers d'une guerre de 30 ans. Or, je crois que si bien évidemment vous avez une connexion entre la Seconde Guerre mondiale et la Première, on peut dans une certaine mesure considérer que la Seconde Guerre mondiale est fille de la Première. Les différences qui séparent la Première Guerre mondiale de la Seconde, l'emportent sur les ressemblances et qu'on ne peut pas considérer comme la Révolution française qui, selon les mots de Clémenceau, était un bloc. On ne peut pas considérer cette période comme un bloc. Ce que je veux dire, en d'autres termes aussi, c'est que l'histoire du monde aurait pu emprunter un chemin totalement différent. Et donc, des dynamiques ont été initiées par la Première Guerre mondiale, c'est incontestable. Je pense par exemple au traité de Versailles, mais ces dynamiques auraient pu aussi ne pas se produire. Je vais donner un exemple pour être concret. On fait du traité de Versailles et des traités connexes l'une des causes de la Seconde Guerre mondiale. Oui, peut-être, mais quand on voit par exemple la Turquie, la Turquie n'a pas du tout fait des traités qui ont réglé la Première Guerre mondiale et qui ont quand même abouti à la dislocation de l'Empire ottoman. Ces traités n'ont pas été considérés pour les autorités d'Ankara comme le moyen ou la nécessité de renouer avec la guerre. Au contraire, la Turquie campe pendant la Seconde Guerre mondiale sur une position de neutralité, alors qu'elle a quand même de puissants voisins, et je pense notamment à l'Union soviétique. Donc vous le voyez, je pense que c'est un peu une erreur de considérer que la Première et la Seconde Guerre mondiale représentent, constituent un bloc. Vous avez eu des dynamiques qui se créent, qui s'amorcent par la Première Guerre mondiale, mais vous avez aussi des dynamiques de l'entre-deux-guerres qui sont extrêmement puissantes et qui invitent donc à distinguer les deux conflits.
Il y a, comme dans tout conflit, et a fortiori dans un conflit mondialisé, il y a des tropismes régionaux, c'est-à-dire que nous avons une tendance, nous, à raconter la guerre. Alors la France l'entame en 1939, les Belges parlent évidemment à partir de mai 40, et puis nous la faisons terminer par la libération de nos grandes villes, en oubliant que non seulement la capitulation n'intervient que les 8 et 9 mai 45, et qu'encore la capitulation du Japon suit, bien entendu, quelques mois plus tard. Donc selon l'endroit du monde où l'on regarde la guerre, on ne commente pas la même guerre.
Non, vous avez entièrement raison de le souligner. Nous sommes victimes, au fond, de notre expérience, ce qui veut dire que le regard que portent les Belges, les Néerlandais, les Indonésiens sur la Seconde Guerre mondiale n'est pas la même. Et donc, il est évident que pour les Chinois, par exemple, la Seconde Guerre mondiale a supposé que les Chinois utilisent ce terme de guerre mondiale. Car pour les Chinois, cette guerre a été d'abord une guerre contre le Japon. Donc, il est évident que les chronologies diffèrent entre les pays. Mais l'autre élément qu'il est aussi, me semble-t-il, important de souligner, c'est qu'on a l'impression, avec la Seconde Guerre mondiale, le terme mondial réfère aussi au terme universel. On a l'impression, si vous voulez, que les belligérants se sont battus pour des valeurs universelles. Mais on peut aussi tout aussi bien considérer la Seconde Guerre mondiale comme une guerre impériale que mènent le Japon, l'Allemagne pour étendre leurs empires, et n'oublions pas, par ailleurs, l'Italie, que mènent la France, le Royaume-Uni pour conserver leur empire. Mais on peut donc, par conséquent, considérer que l'empreinte nationale et les cadres nationaux ont été beaucoup plus puissants que des valeurs ou des principes transnationaux ou universels. Et c'est ce qui explique aussi, me semble-t-il, la fragmentation du souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons en France un souvenir franco-français de cette guerre, comme les Belges, très vraisemblablement, ont un souvenir belgo-belge de cette guerre.
Dans la mesure où vous venez d'ailleurs d'évoquer les empires, l'histoire coloniale du Second Conflit mondial est très peu racontée également dans les manuels classiques. Le Congo pour nous, les puissances de l'Empire pour la France, que ce soit en Afrique ou en Asie, on ne la raconte pas au commun des mortels.
Non, effectivement, les empires sont dans une large mesure oubliés, alors qu'ils ont été très importants. Bon, le Congo belge, bien entendu, parce que n'oublions pas que c'est lui qui a fourni l'essentiel de l'uranium, à peu près 70% grâce à Sangier, qui dirigeait le Haut-Katanga, les mines du Haut-Katanga. Sangier a envoyé tout le stock d'uranium dont il disposait aux États-Unis. Donc, cette bombe atomique, ces bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki sont, dans une large mesure, le produit du colonialisme belge. Mais d'autres éléments ont bien évidemment joué. Les empires ont été sollicités parce que c'était une réserve de matières premières. Les empires ont été sollicités parce que c'était une réserve d'hommes. Et les empires ont été aussi sollicités parce que, d'un point de vue stratégique, ils présentaient un intérêt. Rappelons que toute une partie des avions qui se posent en Égypte vont transiter par l'Afrique, par le Tchad. Donc les empires ont joué un rôle éminemment important pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, enfin pour l'Europe, ou pour les Occidentaux, mais également pour le Japon.
En fait, l'histoire des guerres est, on l'a déjà dit, mais est le plus souvent écrite par les vainqueurs.
Alors, cette formule que l'on doit à l'écrivain français collaborateur Robert Brasillach me semble appeler quand même un certain nombre de correctifs. Parce que quand vous prenez la manière dont la Seconde Guerre mondiale a été racontée du côté allemand, on peut dire que ce sont les vaincus qui ont aussi imposé un certain nombre de grilles de lecture. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains qui étaient absolument hypnotisés par la résistance qu'avait déployée la Wehrmacht, eh bien ces Américains ont sollicité des officiers supérieurs ou généraux allemands pour les aider à comprendre, au fond, la manière dont la guerre avait été menée. Et ces généraux ont imposé une certaine lecture des événements. Lecture des événements qui, par exemple, opérait un distinguo entre une Wehrmacht propre, qui n'aurait jamais trempé dans les massacres, et une SS barbare, qui, au contraire, elle, se serait complue dans ces mêmes massacres. Autre idée, la guerre aurait pu être gagnée par l'Allemagne en Russie si, d'une part, Hitler ne s'était pas mêlé de tout et avait laissé les professionnels de la guerre décider, et si, d'autre part, l'hiver soviétique n'avait pas été aussi rigoureux. Or, tout cela, si vous voulez, ce sont bien entendu des fatèses. Les généraux allemands ne reconnaissent pas que les généraux soviétiques sont aussi talentueux qu'eux. Ce n'est pas le cas en 1941, ce n'est pas le cas en 1942, mais c'est le cas en 1943, 44 et 45. Et les généraux allemands, bien évidemment, ne peuvent pas admettre que les sous-hommes slaves aient une économie beaucoup plus puissante que l'économie du Reich. Donc là, ici, on a au contraire une histoire qui a été écrite par les vaincus, beaucoup plus que par les vainqueurs.
Si par contre, je prends l'exemple de l'entrevue particulière entre Winston Churchill et Joseph Staline, Churchill se méfiant effectivement d'un président américain affaibli et d'un Staline qu'il pense roublard. Cela débouche sur ce que l'on appelle l'accord des pourcentages, un état de fait dont Winston Churchill se vantera peu. Il obtient la mainmise sur la Grèce. Lorsqu'il dit un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe, sa part de pourcentage de responsabilité est réelle.
Oui, tout à fait. Au fond, on peut dire que dans une large mesure, Churchill a trahi Roosevelt par cette entrevue. Roosevelt refusait d'imaginer un monde découpé en zones d'influence. C'est un digne héritier à cet égard de Wilson. Et Churchill, qui effectivement se méfie dans une large mesure de l'idéalisme wilsonien, pense qu'il faut traiter de manière extrêmement pragmatique et négocie donc cet accord dit des pourcentages en octobre 1944 avec Joseph Staline. Élément intéressant d'ailleurs, cet accord sur les pourcentages sera dans une large mesure respecté. Staline n'a pas fait que violer sa parole. Mais il est clair qu'ici, Churchill a mené une politique, une diplomatie du cavalier seul et qu'il est aussi dans une certaine mesure responsable de cette fixation en bloc qui sera le sort de l'Europe, voire du monde, après la Seconde Guerre mondiale.
L'histoire sociale de la Seconde Guerre mondiale, alors on s'attache beaucoup, évidemment singulièrement aussi ces dernières années, avec l'appel lancé par Stéphane Hessel, à l'idée effectivement d'une résistance qui engendre une sécurité sociale dans nos pays, ce qui est vrai, mais l'histoire sociale de la Seconde Guerre mondiale est plus vaste que cela.
Bien évidemment, cette histoire sociale, elle est tout à fait importante parce qu'elle invite à, au fond, réfléchir à la manière dont les peuples ont réagi, à la bourrasque. Alors, il faut souligner ici plusieurs éléments. Premier élément, lorsqu'on parle de la guerre, on pense, lorsque l'on se réfère aux travaux des historiens de la Première Guerre mondiale, à la violence de guerre. En fait, la violence de guerre, elle a relativement peu exposé les populations. Je m'explique. En Belgique, vous n'avez pas d'opération militaire entre, pour aller vite, juin 1940 et août, voire septembre 1944, hormis bien évidemment les bombardements et éventuellement quelques actions menées par la résistance. De même pour la France, et je ne parle pas de la Norvège ou du Danemark. Donc si vous voulez, la violence de guerre, qui a été une réalité sur le front de l'Est par exemple, elle a épargné l'Europe de l'Ouest comme elle a épargné une grande partie de l'Asie-Pacifique. Donc cela veut dire que cette histoire sociale, il faut la lier non seulement au regard de la guerre, mais au regard de deux autres éléments. Le premier élément, c'est l'occupation. Et cette occupation, la Belgique est bien payée pour le savoir, elle n'a plus rien à voir entre 1940 et 1944 avec celle qui avait été son lot pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, troisième dimension qu'il convient de souligner, c'est que s'imposent des régimes autoritaires, s'imposent des régimes totalitaires, s'imposent des régimes dictatoriaux. Alors, la Belgique, via le système des secrétaires généraux, a échappé dans une certaine mesure à cette forme de dictature. En revanche, il est clair que la France, par exemple, voire la Norvège soumise à l'autorité de Kiesling, n'y a pas échappé. Et donc, au fond, les peuples ont été confrontés à cette triple pression. Pression de la guerre, pression de l'occupation, pression, pour aller vite, de la dictature. Et ce que j'essaye de montrer dans mon ouvrage, c'est qu'il y a eu une double logique. Il y a eu une logique d'exposition. C'est-à-dire que les peuples ont subi. Ils ont subi les rafles, ils ont subi la persécution, ils ont subi le rationnement. Mais vous avez aussi une logique de l'implication. C'est-à-dire que des peuples n'ont pas voulu rester, au fond, les spectateurs passifs du drame qui se jouait, ont voulu s'engager, les uns dans la résistance, les autres dans la collaboration. Et là, on a ici une logique de l'implication. Et donc, cette double logique, exposition d'une part, implication de l'autre, elle explique et elle justifie toute l'attention que l'on prête à l'histoire sociale.
Certaines emphases mises sur certains événements peuvent parfois en occulter d'autres. Vous venez de parler des secrétaires généraux en Belgique. La puissance politique qui va pointer la responsabilité du roi Léopold III à travers la question royale va occulter une forme de collaboration étatique à travers les secrétaires généraux.
Oui, bien évidemment, la personnalité du roi a été extrêmement controversée. On peut dire que Hubert Pierlot a eu beaucoup de courage. Alors je ne crois pas qu'il soit considéré comme un Superman en Belgique, mais voilà, je ne sais même pas. Enfin, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de rues, par exemple, qui portent le nom d'Hubert Pierlot, mais il faut voir qu'il avait affaire à une conjoncture extrêmement délicate et que, somme toute, il n'a pas trop mal réussi dans son entreprise. Mais il est vrai que la question royale, la manière dont le roi a essayé de s'émanciper du pouvoir civil, la manière dont peut-être il a essayé de négocier au fond un sort enviable pour la Belgique dans l'Europe nouvelle, eh bien tous ces éléments ont occulté au fond une forme, sinon de collaboration, du moins d'accommodation, dirait l'historien suisse Philippe Burin, qu'ont mené les secrétaires généraux, sans même parler d'une collaboration qui a pu jouer en Belgique à un niveau plus local, je pense bien entendu au niveau des bourgmestres. Et on voit bien que cette collaboration au niveau local va donner des résultats très différents lorsque l'on regarde, par exemple, la persécution des Juifs. Vous avez des Juifs qui ont été épargnés dans certaines régions, dans certaines provinces de la Belgique parce que vous aviez, au fond, une administration qui freinait. D'autres, au contraire, ont été beaucoup plus exposés parce que l'administration montrait une certaine connivence avec l'occupant. Alors, ces éléments, ceci dit, ne doivent pas faire oublier non plus tout ce qui a été la résistance belge, avec notamment le très grand programme Socrate qui visait à sauver les travailleurs belges du travail obligatoire.
Vous venez d'évoquer bien sûr le sort des Juifs, la Shoah. Le sort des Juifs préoccupe peu l'issue de la guerre. Il y a une valorisation de la résistance, on accueille ceux et celles qui rentrent des camps de prisonniers. Le plan d'extermination des Juifs préoccupe peu et peu utilisé dans les arguments, dans les procès. Finalement, l'antisémitisme était ambiant un peu partout.
Alors je pense que vous avez effectivement une occultation du drame subi par les Juifs, qui s'explique peut-être par un certain antisémitisme, mais qui s'explique aussi par une forme d'indifférence qui résulte d'un élément qu'il faut sans doute souligner, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde se sent au fond victime, en Belgique, comme en France, comme au Danemark. D'abord, tout le monde, à part une poignée de profiteurs, a plutôt quand même souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup ont souffert encore plus parce qu'ils étaient prisonniers, parce qu'ils étaient résistants déportés parce qu'ils étaient aussi bombardés. Et donc, le fait d'avoir souffert rend très difficile, au fond, l'idée que d'autres ont souffert plus que vous. Et je crois que c'est un élément qui pèse plus que l'antisémitisme. Une forme, au fond, d'indifférence, parce que, je le répète, beaucoup se sont sentis victimes. Ajoutons que les Juifs qui sont revenus étaient si peu nombreux qu'ils n'ont absolument pas pu jouer, au fond, le rôle de lobby. Lorsque vous avez plus d'un million d'anciens prisonniers de guerre, c'est une parole qui, par exemple, dans la France de l'après-Seconde Guerre mondiale, va peser, va porter. Lorsque vous avez 2500 Juifs qui reviennent des centres de mise à mort, leur parole n'est pas entendue, alors même que ces Juifs s'expriment.
Il fallait donc trouver le ton juste pour évoquer cette histoire totale de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, l'une ayant depuis l'histoire de la Shoah souvent occulté la possibilité de parler complètement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, vous avez entièrement raison. Vous avez dans cette histoire de la Shoah une ombre absolument écrasante, et la Shoah a été un événement incommensurable dans l'histoire de l'humanité. Il faut, ce nonobstant, remettre la Shoah dans son contexte et remettre la Shoah dans une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Elle en constitue un morceau absolument tragique, absolument barbare, mais la Shoah ne doit pas non plus faire oublier ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble. Et son souvenir, qui doit bien évidemment être commémoré, médité, surtout par les temps qui courent, elle ne doit pas non plus, ce souvenir ne doit pas non plus occulter tout le reste qui a été la réalité de la Seconde Guerre mondiale, qui compose cette réalité de la Seconde Guerre mondiale.
In fine, après avoir dû ainsi investiguer l'ensemble des éléments, l'ensemble des facteurs, l'ensemble des dispositifs, est-ce qu'il y a encore des choses qui ont réussi à vous surprendre que vous ne saviez pas ?
Oui, alors, parce que ce qu'il y a de merveilleux dans le métier d'historien, c'est qu'on est payé pour apprendre, on est payé pour lire. Donc, vous avez des éléments qui sont éminemment surprenants. Par exemple, je connaissais assez mal le théâtre asiatique. Or, cette Asie est absolument fascinante. Comment fonctionne le pouvoir japonais ? Comment Mao Tse-tung réussit à s'imposer par rapport au nationaliste Chiang Kai-shek ? Tout cela est assez mal connu en Europe. Et de fait, j'ai pu bénéficier des recherches de mes collègues américains, chinois, japonais, pour essayer de comprendre ce qui se joue sur ce théâtre de l'Asie-Pacifique. Donc, effectivement, le bonheur de la découverte a été immense, mais ce bonheur de la découverte, il ne s'arrête pas avec ce livre, parce que vous avez encore des archives russes qui n'ont pas été ouvertes, vous avez des archives chinoises qui n'ont pas été encore ouvertes. Donc, il faut s'attendre dans les décennies qui viennent. J'espère que ces archives finiront par s'ouvrir à des découvertes tout à fait passionnantes et stimulantes.
Ce n'est donc pas l'histoire définitive de la Seconde Guerre mondiale ?
Non, ce n'est pas. Malheureusement, j'aimerais avoir écrit un livre définitif, mais lorsqu'on est historien, on sait que rien n'est définitif en histoire. On bénéficie des travaux absolument exceptionnels de ses prédécesseurs, et là j'ai une très lourde dette vis-à-vis des historiens qui m'ont précédé. On pose des jalons, on essaye de construire, et on sait qu'après, dans cette chaîne, des historiens plus jeunes reprendront le flambeau et apporteront un autre regard sur cette Seconde Guerre mondiale.
Merci Olivier Vivorca. Je rappelle cette histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Vous la publiez chez Perrin. Merci d'avoir été avec nous dans le fin mot.
Merci beaucoup.